développement. C'est ce qui se fait. On en parlait des voitures électriques, ouais. Mais ça peut se faire.
Mais ça il faut certes le demander à la Chine, mais il faut aussi le demander à nos entreprises, à nous, européennes et américaines, qui sont très bien contentes d'avoir des droits sociaux et environnementaux plus faibles pour faire plus de bénéfices.
Merci à tous les deux, Thomas Porcher, Dominique Seux. C'était le débat éco de la semaine.
Et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 8h. Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, toit sur la tête, à loyer modéré, mais plus quand on gagne trop pour le logement social, départ ou surloyer. Le gouvernement présente les nouvelles règles des HLM, détail dans un instant. La campagne européenne débat Bardella hier soir, mais pour la majorité, le Premier ministre est aussi en campagne. Gabriel Attal fait la tournée des foires et des fêtes locales. Sciences Po Paris fermé aujourd'hui, des étudiants ont passé la nuit dans les locaux en soutien aux Palestiniens de Gaza. Le mouvement est aussi en train de prendre en Angleterre. Nous serons à Manchester et on en reparle Ali et Marion avec votre invité tout à l'heure.
Une légende du barreau qui a servi le droit pendant 65 ans, l'avocat Henri Leclerc, toujours président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, est notre invité. Question aussi sur les libertés publiques, la violence des mineurs, la justice.
La parole et l'action et vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application Radio France.
D'ici là, nous serons au Brésil. Le sud du pays est dévasté par les pluies, à Sarlat, où les urgences de l'hôpital seront totalement fermées aujourd'hui, faute de médecins. Et puis sur scène, pour un opéra rock oublié, il se rejoue ce soir à Paris la Révolution française. Bachung, Antoine et Balavoine jouaient dans la première version du spectacle il y a 50 ans.
France Inter.
C'est le premier poste de dépense des Français. Toujours plus cher et plus difficile à acheter comme à louer. Le logement en crise à tous les niveaux, même la construction est en panne sèche. Pour y répondre, le gouvernement ne mettra pas d'argent sur la table. Il mise sur le développement d'une offre de logement abordable. Titre du projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Le ministre du Logement veut donc changer les règles en HLM en s'attaquant à ceux qui gagnent trop pour y rester, soit en les faisant payer, soit en les faisant partir. Ça représente combien de personnes, Claire ?
Eh bien, cela concerne, selon le gouvernement, 8% des ménages du parc HLM et une petite partie d'entre eux, seulement 80 000, soit 3%, souligne-t-il, paye une majoration de loyer du fait de cette situation. Vrai, mais il y a une logique, explique Jean-Luc Vidon, bailleur social à la tête de la Fédération des associations régionales d'organismes HLM. Le surloyer démarre lorsqu'il y a un dépassement de 20% des plafonds de revenus.
Pourquoi 20%? C'est pour éviter que quelqu'un qui, une année, va toucher une prime et ne paye un surloyer. Mais si une hausse de revenus s'installe, ce ménage paye un supplément de loyer de solidarité. Donc ce dispositif existe déjà.
Mais avec ce texte, il devrait être appliqué désormais dès le premier euro de dépassement. 200 000 personnes potentiellement concernées. Et le seuil de sortie obligatoire du parc est lui aussi abaissé. Il passerait de 150% du plafond de ressources aujourd'hui à 120%.
Ce qui veut dire, Claire, qu'un couple avec deux enfants devra quitter son logement à partir de 6 278 euros de revenus en région, 8 711 à Paris. Le but étant de faire entrer de nouveaux ménages. Ils sont 1 800 000 sur liste d'attente. Hein.
Oui, car si les bailleurs sociaux contestent l'idée d'un logement social à vie, quel que soit le revenu, qui n'a jamais existé, disent-ils, la mobilité a bel et bien chuté. 500 000 sorties du parc par an en 2015, 400 000 seulement l'an dernier. La faute, selon eux, au loyer du privé qui bloque les ménages et à l'effondrement de la construction HLM. Sur ce point, pour redonner des marges de manœuvre financières aux bailleurs sociaux, le ministre veut les inciter à augmenter plus systématiquement les loyers lors de la remise en location des logements qui se libéreront.
Claire Chaudière, spécialiste logement de France Inter, le ministre veut aussi faire sortir ceux qui sont propriétaires. Par ailleurs, les bailleurs auront accès aux informations du fisc. Il mise enfin sur le logement intermédiaire, à loyer plus haut qu'en HLM et plus bas que les prix du marché. Les maires pourront en construire davantage et les compter dans les quotas de logements sociaux obligatoires dans les communes.
Si vous voulez voter dans un mois, c'est le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales.
Rendez-vous dans votre mairie et vous pourrez ensuite faire votre choix pour les européennes. La campagne, cette fois, est bien lancée, avec un premier débat hier soir entre les deux têtes de liste en tête dans les sondages, Jordan Bardella pour le Rassemblement National et Valérie Ayé, la candidate de la majorité, en attendant un possible face-à-face entre le président du RN et le Premier ministre Gabriel Attal, lui aussi en campagne et sur le terrain, dans les fêtes et dans les foires, sans prise de risque, la Manche, le Loiret, demain à Jeun. Marie Mollet, la stratégie est la même que chez l'adversaire.
Gabriel Attal qui plonge un bulot dans la mayonnaise à la foire de Pirou et pousse la chansonnette. Gabriel Attal, accoudé au stand de Rome, ambiance fête foraine à la foire de Beaugency. Faire des selfies en cascade, surjouer les bons vivants, choisir des territoires amis pour s'épargner toute hostilité qui ferait moche sur les images. La recette de campagne ressemble à s'y méprendre à celle de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui depuis janvier documente sa tournée des foires rurales sur TikTok.
J'ai faim, fini mon verre, j'y vais.
Alors, les députés RN crient au plagiat, comme dans le Loiret, Thomas Ménager.
C'est flagrant. C'est pas habituel pour un Premier ministre, c'est pas habituel pour Gabriel Attal de sortir de Paris pour aller sur des foires rurales. Donc oui, c'est un mimétisme, une volonté de plagier, de copier Jordan Bardella, mais je vous le dis, avec beaucoup moins de succès sur le terrain.
Il est vrai, depuis longtemps, Gabriel Attal, on se défend d'imiter le rival. Chirac au cul des vaches, c'est aussi vieux que la politique. Le RN n'a rien inventé.
Marie Mollet du service politique de France Inter. Les locaux de Sciences Po Paris resteront fermés aujourd'hui, décision de la direction, alors que des étudiants occupent de nouveau les lieux depuis hier soir en solidarité avec Gaza. 6 d'entre eux se sont lancés dans une grève de la faim. Les forces de l'ordre sont en train d'arriver sur place. Le mouvement étudiant parti des États-Unis est aussi en train de gagner l'Angleterre avec des campements sur les campus à Sheffield, Bristol, Newcastle ou Manchester. Étudiants déterminés, propos virulents. Un reportage signé Richard Place à l'Université de Manchester.
Au milieu des bâtiments de l'université, des dizaines de tentes, rouges, bleues, vertes, plantées sur une pelouse. Des drapeaux palestiniens et des étudiants harangués par l'une d'entre eux.
Le campus que nous connaissions tous a changé. Les étudiants l'ont repris et disent « Le sionisme et tout ce qui est en lien avec ces crimes hors de l'université. »
Sue étudie les sciences politiques. Elle fait partie de ceux qui sont à l'origine de ce campement. Elle dort aujourd'hui sur ce qui s'appelle normalement Brunswick Park.
Nous nous sommes appropriés cet endroit et on l'a renommé. C'est le campement de résistance pour la Palestine.
Les revendications sont claires. La direction de la faculté doit rompre ses liens avec deux universités israéliennes jugées proches de l'armée, ainsi qu'avec BAE Systems, un fabricant d'armes britannique. Sinon, Lisa, étudiante en histoire de l'art, et tous les autres continueront de camper.
Mon diplôme n'est pas aussi important que la cause. Je peux encore l'avoir parce que je vais bien, j'ai un abri, des parents. Les Palestiniens n'ont pas tout ça. Si j'étais là-bas, je n'aurais pas pu passer mes examens librement.
La vie s'organise sur ce campement appelé à durer. Manchester, Richard Place, France Inter.
Et sur place à Gaza, le Hamas fait état de 28 morts en 24 heures. Les combats se poursuivent en attendant la réponse du mouvement palestinien à la proposition de trêve avec Israël. Au Brésil, le bilan s'annonce dramatique. 29 morts et des dizaines de disparus pour l'instant, victimes des pluies diluviennes qui noient l'état du Rio Grande do Sul. Un événement climatique extrême. Les images sont dantesques. Correspondance Jean-Mathieu Albertini.
Les ponts s'effondrent, les routes s'affaissent, des quartiers entiers sont sous les eaux et les glissements de terrain se multiplient. Depuis le début de la semaine, des pluies torrentielles martyrisent la région, des dizaines de milliers de personnes sont affectées et la situation va encore s'aggraver, prévoit le gouverneur de l'État, Eduardo Leite.
C'est déjà le plus grave désastre climatique de notre région et ça va être pire. Depuis mardi, on mobilise ce qui est possible, mais il y a encore beaucoup de perturbations climatiques, ce qui gêne les vols nécessaires au secours, avec des conséquences très graves. C'est pour ça que le nombre de morts est totalement provisoire.
De nombreuses personnes sont du coup isolées, sans pouvoir être évacuées. Lula s'est rendu sur place pour participer à une réunion de crise et en plus de mettre des moyens à disposition, il appelle à s'attaquer aux causes des événements climatiques extrêmes.
C'est déjà le deuxième événement du genre en moins d'un an ici. Il faut absolument qu'on se mobilise pour mieux prendre soin de notre planète Terre.
Les autorités craignent de voir certains barrages se rompre alors que les précipitations devraient encore s'intensifier durant au moins les trois prochains jours. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
En France, les urgences de Sarlat seront donc totalement fermées aujourd'hui. Pas simplement l'accueil, mais le service tout entier jusqu'à demain matin, 8h30, parce qu'il n'y a pas un seul médecin pour accueillir les malades. L'hôpital n'a pas trouvé de remplaçant. Didier Couteau dirige l'agence régionale de santé de Dordogne.
Les urgences de Sarlat sont fermées. C'est une situation absolument exceptionnelle. On a vraiment cette situation où on n'a pas d'urgentiste pendant une période de 24 heures. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel puisque ça n'arrive jamais. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de prise en charge puisqu'on a toujours des médecins dans les étages et puis on a toujours une infirmière d'accueil et d'orientation qui est positionnée au niveau des urgences. Donc très clairement, les consignes, c'est évidemment de faire le numéro d'urgence 15. Il y a toujours une possibilité d'aller vers la personne et de faire un diagnostic pour voir s'il y a vraiment une urgence vitale. Et dans ce cas, il peut y avoir un déplacement vers les urgences de Gourdon, de Bergerac ou de Périgueux.
Le directeur de l'ARS, l'agence de santé de Dordogne, joint par France Bleu Périgord, selon lui, en l'état des plannings, une nouvelle fermeture des urgences pourrait avoir lieu à la fin du mois. À l'hôpital de Cannes, ce sont des milliers de données qui ont été volées le mois dernier, elles viennent d'être publiées sur Internet, car l'hôpital n'a pas payé la rançon demandée par Lockbit, groupe cybercriminel considéré comme le plus nuisible au monde. On le pensait justement hors d'état de nuire, Manon Derdevet.
Des bilans de santé, des cartes d'identité ou encore des bulletins de salaire. Autant de données personnelles diffusées sur le Darknet par Lockbit, le groupe numéro 1 du cybercrime qu'on pensait démantelé après une vaste opération internationale en février. Avec la cyberattaque de l'hôpital de Cannes, il revient et frappe fort, selon Clément Domingo. Ce hacker éthique traque Lockbit depuis des années.
Lockbit, c'est un peu, entre guillemets, rené de ses cendres. On peut interpréter ça comme envoyer un signal fort aux concurrents en leur disant non, on est toujours présent, on est toujours les numéros 1. C'est envoyer aussi un autre signal aux forces de l'ordre en disant bah non, l'opération, le coup d'arrêt que vous nous avez mis, il était juste temporaire et pas du tout définitif.
Le groupe le plus actif de rançongiciel au monde, véritable multinational, il fonctionne avec un système de franchise et des centaines de pirates indépendants affiliés à travers le monde. Un réseau très difficile à juguler et qui pourrait multiplier ses attaques en France ces prochains mois.
Pendant les Jeux Olympiques, on va se faire malmener de partout. Depuis 2019, Lockbit, c'est quand même pas loin de 2600 entreprises dans le monde qu'ils ont attaquées.
Depuis le début de l'année, Lockbit serait à l'origine d'une trentaine de cyberattaques en France.
Manon Derdevet, voilà qui ne va pas arranger la circulation en Ile-de-France. L'autoroute A6 B est fermée dans les deux sens aux portes de Paris ce matin, à la suite d'un incendie dans le tunnel de Bicêtre. On rappelle que la 13 est elle aussi fermée dans l'ouest de la capitale. Et loin du bitume et des odeurs de gaz d'échappement, nous voici à Chédigny, en Indre-et-Loire, commune labellisée village jardin remarquable grâce à un travail de longue haleine depuis les années 80 pour mettre en valeur la commune sans patrimoine particulier et en dehors des circuits des châteaux de la Loire. Paris payant, Chédigny attire aujourd'hui des milliers de touristes. Elle séduit aussi de nouveaux habitants, une centaine d'administrés supplémentaires depuis 15 ans. Reportage Béatrice Duguay.
Le plus remarquable dans cette aventure, c'est que le village n'a pas vraiment d'atout architectural, remarque Xavier Mathias, agriculteur et conférencier installé dans le village.
Ce sont les plantes qui mettent en valeur le bâti. C'est tout à fait étonnant.
Le végétal a également pacifié une circulation pléthorique dans les années 80. Pascal Duguay, le maire de la commune, est bien placé pour en parler.
Des voitures, des tracteurs, des camions, des mobilettes, des motos, tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement changé, on n'a plus du tout ça.
Les piétons, les vélos sont les rois dans un village envahi de rosiers, de dahlias, de lys, d'astères qui embaument. Ces touristes en jouissent littéralement.
On essaye de sentir tout, donc c'est agréable.
C'est un plaisir olfactif, enfin sensoriel.
Pascal, la postière, a fait le choix, elle, de venir vivre à Chédigny il y a 5 ans.
Le matin, on se lève, on est dans le jardin, quoi. Ça sent bon, il n'y a pas que les glycines, il y a plein de sortes d'arbustes.
Des variétés renouvelées par le jardinier en chef, adaptées aux nouvelles conditions climatiques et à toutes les saisons aussi. Les touristes et les habitants ne sont pas loin de penser que Chédigny pourrait être prescrite sur ordonnance.
C'est même pas une question de dire oui, c'est beau, c'est en plus on se sent bien ici.
Ça nous oblige à nous poser, à prendre du temps pour nous aussi.
On est au-delà de tout, là. On décompresse complètement.
Le village fait des adeptes en tout cas. D'autres communes viennent en prendre de la graine auprès des trois jardiniers de Chédigny.
Reportage Béatrice Duguay avec de vraies abeilles dedans. Guillaume Meurice ne sera pas à l'antenne ce dimanche sur Inter. L'humoriste a été suspendu par Radio France et convoqué à un entretien préalable en vue d'une possible sanction. Dimanche dernier, il a répété sa blague polémique sur Benjamin Netanyahou. La plainte déposée contre lui pour ses mêmes propos du mois d'octobre ayant été classés sans suite. Ils avaient valu à Radio France une mise en garde de l'ARCOM. Rien de trop facile pour les Français en Coupe d'Europe de football. Décidément, devant son public bouillonnant au Vélodrome, l'OM a fait match nul hier soir, un but partout en demi-finale aller de Ligue Europa face aux Italiens de Bergame. Rendez-vous jeudi prochain pour le match retour. Enfin, voici un opéra rock oublié. La Révolution française, jouée en 1973, jouée et créée d'ailleurs. Il avait tout pour être mythique, vu sa distribution et ses auteurs, Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui avaient ensuite créé Les Misérables. La comédie musicale sera, figurez-vous, redonnée à partir de ce soir à Paris au 13e art, 50 ans plus tard. Julien Baldacchino a assisté aux répétitions.
Il y a 50 ans, Alain Bachon ou Daniel Balavoine jouaient dans la première version de ce spectacle, qui est un morceau d'histoire de la comédie musicale en France pour Pierre-Amar Chalal, producteur indépendant à l'origine de cette reprise.
La Révolution française, c'est en 1973. Quatre copains qui sont dans l'industrie du disque qui se disent, après avoir vu Jésus-Christ Superstar à Londres, pourquoi pas faire un opéra rock français. La première a eu lieu le 2 octobre 1973. C'est 6 ans avant Starmania et 7 ans avant Les Misérables. Depuis, aucune production professionnelle n'a reproduit le spectacle.
Pour cette version 2024, de nouveaux arrangements musicaux ont été écrits et cette fresque est désormais portée par une troupe paritaire qui met aussi en avant le rôle des femmes dans la Révolution. Bonnet phrygien sur la tête, Clara Poirieux joue le rôle de Marianne.
Le metteur en scène a eu cette volonté de moderniser aussi en ramenant des femmes. On pense historiquement, il y a beaucoup d'hommes, mais mine de rien, même historiquement, il y a eu aussi beaucoup de femmes. Elles étaient déjà présentes à l'époque. Ça modernise le spectacle de les mettre aussi un peu sur le devant de la scène, de raconter leur histoire.
Autre spécificité du spectacle, le public découvrira un Robespierre joueur de basse, car les musiciens sur scène sont aussi des comédiens de la troupe. La peau d'église, moi j'en fais remise.
Mon roi le cherche là-bas. La Révolution française, ça sent toujours bon les années 70, et donc au 13e art à Paris, avant le retour des Misérables, grand succès français et à l'international, de retour à Paris avant la fin de l'année pour la première fois depuis 30 ans.
Et vous pouvez enlever votre bonnet phrygien, Florence Paracuellos, il est 8h16 sur Inter.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Céline Dacosta, le soleil brille déjà largement près de la Méditerranée.
Oui, et il va briller toute la journée. Il brillera également généreusement en Corse cet après-midi parce que ce matin, il reste quand même quelques averses sur l'ouest de l'île. Partout ailleurs, c'est plus changeant avec encore quelques gouttes ce matin près des frontières du Nord mais aussi du Jura aux Alpes et puis surtout une nouvelle perturbation. Elle arrive par l'Atlantique avec les premières averses ce matin entre le sud de la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine. Des averses qui vont devenir orageuses cet après-midi et puis surtout, elles vont gagner du terrain dans les terres avec un ciel partagé. Entre nuages et éclaircies, retour à un temps sec et plutôt ensoleillé, ça c'est pour la pointe nord. Ça va rester faiblement pluvieux du Jura aux Alpes avec un petit peu de neige au-dessus de 1700 mètres.
Et pour les températures, c'est un peu frais ce matin par endroit.
Oui, surtout là où le ciel a été dégagé cette nuit. 4 degrés par exemple à Clermont-Ferrand, 6 à Rennes, 8 à Bordeaux, ça grimpe un petit peu ailleurs. Hein. 10 à Paris, 12 à Toulon, 15 à Ajaccio. Ça grimpera également cet après-midi, on va gagner quelques degrés, mais on va rester sous les normales de saison, puisque la moyenne ira de 12 à 20 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter. Écoutez Inter, il est 8h18.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei Duba. Wahdahu min Souria. Sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Pierre Aski.
Bonjour.
Pierre, ce matin, vous vous intéressez au dîner qui a eu lieu hier soir entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz.
Il faudrait écrire un traité de diplomatie gastronomique. On y retrouverait quelques repas célèbres, comme celui de François Mitterrand et Margaret Thatcher, au restaurant La Mère Poulard au Mont-Saint-Michel en 1988, ou encore Jacques Chirac et Gerhard Schröder chez Yvonne à Strasbourg en 2014 pour une tête de veau, ou Emmanuel Macron tentant d'amadouer Donald Trump au restaurant du premier étage de la Tour Eiffel en 2017. Hier soir donc, le couple Macron recevait Monsieur et Madame Scholz dans un grand restaurant parisien. Dîner privé, a fait savoir l'Élysée, en refusant de faire la moindre communication. Il s'agit pourtant de tout sauf de simples détentes. S'il manquait de sujet de conversation, le président et le chancelier allemand pouvaient toujours parler de la visite à Paris du président chinois Xi Jinping. Olaf Scholz était à Pékin le mois dernier et la coordination des positions face aux géants chinois s'impose. L'Élysée souhaite inviter Olaf Scholz à participer à la rencontre avec Xi Jinping la semaine prochaine comme Angela Merkel l'avait fait en 2019 à Paris. C'était une première.
Et j'imagine qu'il y a aussi des enjeux européens.
Bah, toujours s'il manquait de sujets de conversation, Emmanuel Macron et Olaf Scholz pouvaient discuter de la couverture du magazine britannique The Economist, paru hier. On y voit le président français avec ce titre « L'Europe en danger de mort ». Dans une interview, le président explicite sa petite phrase sur l'Europe qui peut mourir, prononcée dans son récent discours de la Sorbonne. Et il laisse de nouveau la porte ouverte à l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, a-t-il dit, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Fin de citation. Lorsqu'il avait fait allusion à cette possibilité la première fois, en février dernier, Emmanuel Macron s'était attiré une réaction négative très vive d'Olaf Scholz. Force est de constater que le président français persiste et signe.
Alors ce dîner était-il celui de la réconciliation ?
La relation franco-allemande est ainsi faite qu'elle dépend en partie de l'alchimie entre les deux principaux dirigeants, De Gaulle Adenauer, Mitterrand Kohl, Chirac Schröder, etc. Mais pas seulement. L'ampleur des intérêts croisés est considérable et surtout, les deux pays sont conscients de leurs responsabilités particulières au sein de l'Union européenne. À l'heure de la guerre en Ukraine et des autres menaces mortelles que constituent le risque de décrochage technologique ou la guerre froide sino-américaine, il est vital que les deux principales puissances de l'UE s'entendent, même lorsqu'elles ont des divergences, comme c'est le cas depuis des mois. Le leadership européen ne peut pas être assuré par un seul pays, si puissant soit-il, ni par un seul dirigeant, si ambitieux soit-il. La France et l'Allemagne ne peuvent pas non plus piloter les 27 tout seuls. La Pologne est désormais le meilleur candidat à rejoindre ce leadership historique. Et diverses coalitions se forment selon les sujets. C'est un processus complexe. Mais qu'y a-t-il de mieux que la diplomatie gastronomique pour aplanir les différences ?
Merci Pierre Aski. À suivre le grand entretien avec Maître Henri Leclerc.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce vendredi, nous recevons Grégoire Delacour.
Et nous retrouverons Jocelyne, la mythique gagnante du loto et héroïne de la liste de mes envies.
Le deuxième du nom, la bande originale, tous les jours à 11h sur Inter.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2 ? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe !
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
France Inter, 8h22.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Grand entretien ce matin avec Marion Lourd. Nous avons l'honneur de recevoir une légende du barreau, grand avocat humaniste depuis ses tout premiers combats. Il a défendu les militants du FLN, des étudiants en mai 68, des militants de gauche dans les années 70. Robert Badinter, son compagnon de route, notamment contre le négationniste Robert Forisson. Il est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Maître Henri Leclerc, bonjour.
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 Et bienvenue. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, vous êtes devenu une institution, maître. Vous avez maintenant une salle Henri Leclerc au Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris. Elle a été inaugurée cette semaine.
Oui, bah écoutez, c'est comme ça. J'ai été très ému. Très ému que mes confrères, beaucoup plus jeunes que moi, essayent de voir ce qu'a été le parcours d'un avocat, qui a été d'abord avocat et militant d'ailleurs en même temps, et que l'ensemble des confrères dans le Conseil de l'Ordre donnent à leur salle de réunion mon nom, était émouvant.
Et quel parcours, et quel combat, et en l'occurrence vous avez formé, inspiré des générations d'avocats, on va en parler, mais depuis plusieurs jours, un sujet que vous connaissez bien d'ailleurs, qui remonte à vos premières plaidoiries dans les universités des facs françaises, à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, à l'école de journalisme de Lille. On a vu des blocages, des étudiants qui manifestaient pour dénoncer les bombardements à Gaza, pour réclamer un cessez-le-feu. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en ce moment ? On a souvent entendu ces derniers jours la comparaison avec mai 68. Comparaison n'est pas raison ?
C'est-à-dire, non, parce qu'effectivement, même 68, c'est il y a 65 ans, quelque chose comme ça. Et quand même, ce qui se passe il y a 65 ans, que j'ai vécu de très près, est différent. Certes, il y avait le problème du Vietnam à l'époque, et il y avait déjà eu des manifestations, mais il est évident que la crise qui a démarré de l'université, en particulier de l'université de Nanterre d'ailleurs, et également de Paris, la crise a été très importante et cette histoire que j'ai vécue de très près
oui.
est une histoire assez extraordinaire parce que je dirais qu'au début, il y avait des manifestations pacifistes des étudiants. C'est après les affrontements à la police, cette incursion de la police dans la Sorbonne, etc., qui a obligé les manifestations, puis les violences de plus en plus grandes, et puis des affrontements, et puis surtout le mouvement social français, c'est-à-dire cette grève immense qui va secouer toute la France, qui montre bien qu'il y avait une crise. Pompidou rouvre la Sorbonne. Après, bon, et puis la fin de mai 68, à la fin du mois de mai.
Donc c'est très différent, mais quel regard portez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui dans ces établissements ?
C'est différent parce que là, nous sommes en face de quoi ? D'un mouvement du cœur. Et ce qui se passe actuellement à Gaza est quelque chose qui bouleverse. Alors, bien entendu, personne ne conteste le fait que le 7 octobre est une horreur absolue, que c'est un acte barbare, c'est pas les femmes, les enfants, les viols, etc. C'est insupportable. Et la prise d'otages, qui est insupportable. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est la mesure de rétorsion. Alors certes, certains disent « mais le 7 octobre, c'était une rétorsion ». Alors c'est vrai, moi ça fait depuis plus 60 ans que je me bats pour les droits des Palestiniens.
Oui.
Mais en même temps, la réponse qui est donnée est quelque chose d'effroyable, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces populations civiles massacrées, ces pans de murs qu'on voit encore quelquefois qui représentent ces villes écrasées, ces gens qui se réfugient partout, cette aide alimentaire qui n'arrive pas. Nous avons actuellement un massacre. Alors, la Cour pénale internationale a envisagé le fait qu'il y avait des menaces de génocide. Bon, on ne va pas faire du droit, hein. Ce qui se passe, c'est terrible. Alors, est-ce que le chiffre donné par le Hamas de 40 000 morts est exact ? C'est vraisemblable, compte tenu de ce qu'on voit, qui est devenu, compte tenu de ce... Il se passe là quelque chose d'horrible. Alors, toujours, la population étudiante a manifesté des élans du cœur. Et toujours pour ceux qui sont écrasés. Rarement pour les autoritaires. Et ce qui s'est passé pour le Vietnam, c'est vrai, dans les années 68-70, quand le napalm tombait, qu'il y avait cette petite fille qui écartait les bras toute nue sur la route, etc.
On se souvient de l'image.
C'est un peu... Il y a quand même un élan du cœur. Et là, véritablement, pour Gaza, c'est un élan du cœur, mais en même temps, c'est une position politique. C'est-à-dire que ce peuple a droit à quelque chose.
Henri Leclerc, vous parliez de la police qui est intervenue notamment à la Sorbonne aussi dans le cadre de ces manifestations pour Gaza, à Sciences Po aussi pour mettre fin au blocage. Est-ce que c'est sa place à la police ? Parce que dans la Déclaration des droits de l'homme, la police, article 12, elle est indispensable à la garantie des droits de l'homme. Article 11, il y a aussi le droit à manifester.
Non,
alors...
mais bien sûr. Mais non, mais attendez, c'est incontestable. La police est intervenue. Elle avait fait une grande erreur en 68. Grande erreur, parce que c'est l'intervention de la police le 3 mai, je crois, le 3 mai, 3-4 mai, l'intervention de la police qui a déclenché la manifestation. Moi, j'ai défendu les premiers arrêtés, le dimanche matin.
Les premiers étudiants arrêtés.
Et le lundi, j'allais à la Sorbonne pour rectorat, pour défendre Daniel Cohn-Bendit, qui était poursuivi disciplinairement. Il ne l'a pas été d'ailleurs, et ils ont renoncé, complètement renoncé. Mais j'arrivais à Paris... Dans les rues de Paris, ça y était, ça sentait le gaz lacrymogène, c'était la bataille. Elle était partie, libérer nos camarades, etc. Bon, donc l'intervention de la police...
Aujourd'hui.
On ne dit pas trop qu'il y a eu des heurts violents.
Non.
Non, alors voilà. C'est-à-dire que c'est là qu'est le problème. À partir du moment où il y a un affrontement entre la police et les étudiants, c'est un fait historique et constant, c'est là que les choses dégénèrent.
Mais un mot quand même, Henri Leclerc, parce que certains voient dans ces mouvements d'étudiants pas simplement le cri du cœur d'une génération qui est interpellée par ce qui se passe à Gaza, mais en l'occurrence, on entendait Hugo Micheron, chercheur spécialiste de l'islamisme, hier, dire qu'il s'agissait de l'instrumentalisation d'un bastion de la démocratie, ces lieux universitaires et Sciences Po Paris en particulier. Il y a ceux qui voient aussi une forme d'antisémitisme ou un antisémitisme qui s'affirme dans ces mouvements. Comment est-ce que où est-ce que vous mettez le curseur ?
Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Alors, l'antisémitisme, c'est pour moi un combat depuis mon enfance, je dirais.
Oui.
L'antisémitisme, j'ai toujours considéré que c'était une horreur absolue. Et je me battrais jusqu'au bout pour combattre tout antisémitisme. Certes, la Ligue des droits de l'homme a été fondée en 1898, pendant le procès
d'Alfred
Zola,
Dreyfus,
qui avait écrit J'accuse, et a été fondée réunissant un certain nombre d'intellectuels, mais il faisait un manifeste dans lequel il traitait l'antisémitisme de vente folie. Et il est évident que l'antisémitisme est une tendance absolument effrayante, mais je ne crois pas du tout que l'antisémitisme domine actuellement en France. C'est pas ça. Certes, il y a des antisémites, il y en a toujours eu. Peut-être sont-ils un peu plus nombreux aujourd'hui. Peut-être ont-ils d'autres fondements que ceux de l'antisémitisme d'autrefois. Mais je crois qu'ils sont très minoritaires. Je ne crois pas actuellement que nous ayons affaire à un mouvement antisémite. En tout cas, je peux le dire, si j'en sens les manifestations, je les combattrai de toutes mes forces.
Henri Leclerc, la députée LFI Mathilde Panot et la candidate LFI aux européennes Rima Hassan ont été entendues mardi par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. On se rappelle qu'elles n'avaient pas voulu qualifier de terroriste le mouvement islamiste Hamas. Elles sont mises en cause donc pour leurs produits. Pourquoi c'est ridicule ?
Parce que d'abord le terme de terrorisme est un terme qui a une définition juridique, certes, mais enfin, on sait ce que c'est. Bien. Alors, vous savez, je me rappelle d'une fois où quelqu'un, qui était quelqu'un de droite, m'a demandé de défendre la cause arménienne. Enfin, du moins, un militant qui était poursuivi pour un acte terroriste, fait pour demander à la Turquie de reconnaître le génocide arménien. Et comme je m'étonnais que cet homme de droite défend, il m'a dit « Oui, mais cette fois-ci, la cause est juste ». Malheureusement, le terrorisme, c'est souvent ce qu'on reproche à l'adversaire. Rappelez-vous que, quand même, la Manouchian, qui vient d'entrer au Panthéon, a été qualifiée de terroriste sur une affiche. La libération par la terreur, bon, et on ne peut pas considérer que Manouchian soit un terroriste. Ça, c'est la première chose.
Donc c'est ridicule de convoquer
ridicule, c'est de les convoquer aujourd'hui, oui. Ça, je crois vraiment profondément que c'est ridicule. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une manœuvre policière. C'est-à-dire qu'ils sont... Certes, il y a des injonctions judiciaires pour le diriger, mais c'est des gens qui sont convoqués à la police, entendus par la police. On sait que les questions qu'on leur pose sont des questions très approfondies sur leur religion, sur leurs idées politiques, etc. etc. Or, l'apologie du terrorisme, ça ne peut pas être une atteinte absolue à la liberté d'expression. Et tout de même, tout le monde est juge de qualifier des actes commis à l'étranger, etc. Certains peuvent considérer que
mais elle est encadrée, la liberté d'expression, maintenant.
Non, mais justement, oui. Mais
et vous le savez mieux que personne, puisque vous avez défendu Robert Badinter.
Par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, mais également l'article 10 de la Convention européenne. Et je rappelle que sur ce sujet, la Cour européenne, dont on aura peut-être à reparler tout à l'heure,
oui,
a une position extrêmement claire, extrêmement nette, depuis 1972, avec une formule qu'elle reprend partout. Et elle dit que la liberté d'expression n'est pas faite seulement pour les idées et les informations qui sont inoffensives ou même accueillies avec ferveur, mais aussi pour ces idées, ces informations qui heurtent, choquent et inquiètent une partie de la population. Ainsi, dit la Cour européenne, le veulent, la tolérance, l'ouverture de la société, le pluralisme, élément nécessaire à toute société démocratique.
Donc elles ont fait usage de leur liberté.
Et je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même il y a une idée qui heurte, qui choque un certain nombre de gens, il faut la laisser s'exprimer. Bon, certes, attention, pas les appels à la haine, pas les actes racistes, oui, mais lorsqu'il s'agit de qualifier un acte commis à l'étranger, je crois qu'il faut, il y a une grande liberté d'expression. Et ce qu'il y a de grave, c'est la condamnation de ce syndicaliste du Nord à ce sujet. Bon, Panot, tout ça, ça passera, à mon avis, et on n'en parlera plus dans quelques temps. Mais je trouve que l'utilisation... Je rappelle que sur ce sujet, la Cour européenne a condamné la France pour la condamnation de Jean-Marc Rouillon, qui était un des leaders d'Action Directe, et qui avait dit que les assassins de janvier 2015, les assassins de Charlie Hebdo, avaient été courageux. Et il a été condamné. Mais la Cour européenne dit, vous l'avez condamné à de la prison. Et dit, c'est pas possible de condamner à de la prison, même avec sursis, hein, de la prison. C'est pas, et votre loi sur ce sujet n'est pas bonne. Et elle a condamné la France. Parce que l'apologie, c'est quand même une expression. Alors, c'est vrai que ça a été élargi. C'est la présentation sous un jour favorable. Alors, effectivement, présenter sous un jour favorable les horreurs du Hamas du 7 octobre peut être choquant. Mais en même temps, c'est une idée qui est une idée qui choque. C'est pas une idée de haine. Et là, je trouve que véritablement...
Quelle est la différence ?
Je ne comprends pas la position qu'a pris le gouvernement français sur ce sujet.
Quelle est la différence ? Entre une idée qui choque et une idée de haine.
Ah ben c'est une idée qui choque n'est pas forcément une idée de haine. C'est-à-dire considérer, par exemple, que certains actes de guerre, considérer effectivement que certains actes de... Je rappelle quelque chose. La résistance à l'oppression est un des quatre droits imprescriptibles et naturels et imprescriptibles de l'homme que définit l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. La résistance à l'oppression. Et donc, effectivement, il y a plusieurs façons de voir la résistance à l'oppression. Est-ce qu'il y a une oppression ? Est-ce qu'il n'y a pas d'oppression ? Est-ce qu'il faut une résistance ? Pour moi, il y a une répression. Il y a une oppression.
Et donc, de la part de l'État d'Israël.
Alors que le discours de haine, c'est effectivement le discours antisémite. Ça, le discours antisémite ou le discours anti-musulman sont des choses absolument intolérables.
Comment expliquer, Maître Henri Leclerc, que de plus en plus nombreux sont les hommes politiques qui mettent en cause justement les cours de juridiction supérieure à la juridiction française, la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, mais même le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État.
Oui. Le Conseil constitutionnel qui a...
Vous y voyez une attaque à l'État de droit ?
Je rappelle que le Conseil constitutionnel a annulé une grande partie de la loi sur l'immigration qui avait été proposée par le gouvernement à la fin de l'année 2023. Et le Conseil constitutionnel, le gouvernement dit, mais on savait, on l'avait fait exprès. C'est aberrant qu'on mette des choses. Le Conseil constitutionnel est là pour rappeler les principes fondamentaux. Bon, et quant à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été fondée par la France, par un certain nombre, dans le cadre du Conseil de l'Europe, qui n'est pas tout à fait l'Union européenne. Il y a 46, 50 même peut-être maintenant, États qui y adhèrent. C'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire du monde. C'est une juridiction qui a des pouvoirs de principe. Elle n'a pas de militaire, elle n'a pas de police pour exécuter ses décisions. Mais en même temps, la Cour européenne des droits de l'homme donne des principes qui sont les principes fondamentaux d'un certain nombre de démocraties. Elle rappelle qu'il y a des principes fondamentaux et que les États, qui ne sont pas forcément des États fascistes, des adversaires même de la démocratie, mais que les États peuvent être condamnés et qu'ils sont obligés de respecter les décisions qui ont été rendues. Or, la décision Rouillon, dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, est une décision qui s'impose. Je rappelle, par exemple, que la Cour européenne, après tant d'années, vient enfin de condamner les conditions dont la France a accueilli les harkis qui l'avaient servi pendant la guerre d'Algérie et qui ont été traités d'une façon abominable. Et qui ont été... Il y a eu des réparations, mais la Cour européenne des droits de l'homme a dit que ce n'est pas suffisant, ces réparations. Et ça, je trouve que cette idée d'une Cour européenne est une idée essentielle qui fait que les États démocratiques même peuvent être, par le mouvement, par les circonstances, amenés à dépasser les principes. Je rappelle quelque chose.
Oui.
Robert Badinter avait une formule extraordinaire que je reprends à mon compte. Il disait, le problème n'est pas de savoir si la France est le pays des droits de l'homme. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et là, il y a vraiment un certain nombre de principes fondamentaux qui sont intégrés à notre Constitution aujourd'hui, et il est important qu'il y ait même un regard extérieur pour le faire.
Maître Henri Leclerc, Reporters sans frontières publie aujourd'hui son classement annuel pour la liberté de la presse.
Celui qu'on vient de voir aujourd'hui est terrible.
Pourquoi il est terrible ?
Parce qu'il y a le nombre de journalistes qui sont poursuivis dans le monde est absolument considérable et que la position de la France n'est pas considérée comme absolument exemplaire comme elle devrait l'être.
Mmh. Et il y a les journalistes environnement qui sont particulièrement visés.
Absolument.
Et ça vous...
Ça me révolte complètement. Parce que si on ne peut plus... orienter la recherche du progrès. Ben, nous sommes dans une société démocratique, et la société démocratique, elle ne doit pas seulement être pluraliste, tolérante, comme le dit la Déléco européenne. Mais la société démocratique, elle doit aussi viser le progrès, c'est évident. La société démocratique, chaque fois qu'elle se replie sur elle-même, dérape les tentations d'autorité, etc. Bon. Et donc, je trouve que avoir un regard qui est un regard paresseux, et même qui est un regard critiquable, sur tout ce qui peut être dit sur le climat aujourd'hui, sur l'évolution en ce domaine, oui, me paraît regrettable.
Vous êtes inquiet pour la démocratie française et l'état de droit aujourd'hui, Maître Henri Leclerc ?
Je suis moyennement inquiet. Je suis inquiet pour deux raisons. La première, c'est le comportement actuel sur tous ces sujets dont je parlais. Et pas seulement parce qu'il n'y a pas que les droits politiques et civiques, il y a aussi les droits économiques et sociaux. Ce qui s'est passé au niveau des retraites, même sur la démocratie, sur la loi, c'est la volonté générale. On ne peut pas dire qu'au moment des retraites, ça a été la volonté générale. Ce qui se passe sur le chômage, ce qui se passe sur le logement. Bon, tout cela, c'est un peu inquiétant. Mais il y a pire, il y a les menaces. Et les menaces, effectivement, d'un dérapage autoritaire, d'un dérapage vers des partis et des idées, et qui sont des idées qui me paraissent contraires, justement, à la démocratie.
Exemple ?
Oh ben, exemple, par exemple, la façon dont on considère ce que doit être le traitement des étrangers qui viennent en France, y compris les réfugiés, de ceux qui fuient des régimes abominables. Et là, la conception d'extrême droite est une conception critiquable. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quelquefois, non seulement qu'ils ont réussi à conquérir une partie de l'opinion publique, peut-être des votes, ça on en est encore au niveau des sondages, mais que la vieille droite républicaine semble un peu déraper vers cela.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous avez une question pour Maître Leclerc.
Oui, bonjour Maître Leclerc.
Bonjour madame.
Je vous remercie de prendre ma question. Bonjour confrère, je suis avocate. Je voulais d'abord vous dire qu'évidemment je suis une grande admiratrice de votre carrière et de vos combats, que je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Je vous ai écouté ce matin. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous sur les dérives actuelles autoritaires. Par contre, je vous ai entendu dire que selon vous, il n'y avait pas de questions aujourd'hui particulières sur l'antisémitisme. Et là, je me sens obligée de réagir parce que, en réalité, c'est la première fois de ma vie que j'y suis confrontée. J'ai plus de 40 ans, je suis avocate, on va dire une avocate de gauche, engagée sur la question du droit des étrangers. L'antisémitisme, pour moi, c'était pas du tout une question, et ça l'est malheureusement depuis maintenant un petit moment. Mes enfants, ils sont aussi confrontés. Donc voilà, j'ai du mal à entendre que aujourd'hui, ça ne serait pas une vraie question, une vraie problématique. Il y a malheureusement une explosion des actes antisémites et je suis peinée de vous entendre expliquer que c'est pas une réalité, alors que c'en est une, malheureusement.
Merci voilà. Cécile. Votre réponse, Maître
Oui, je pense effectivement qu'il y a des actes antisémites, ça c'est sûr. Nous savons le nombre d'actes antisémites qui sont relevés par la commission contre le racisme de la CNCDH sont absolument essentiels, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce sont des actes. Il n'y a pas actuellement de politique antisémite. Il n'y a pas, me semble-t-il, un grand mouvement antisémite. Il y a des actes antisémites. Ils doivent être effectivement non seulement réprouvés, mais donner lieu à des condamnations.
Mais ce n'est pas évident à entendre ce que vous dites, Maître Henri Leclerc. C'est vrai que vous avez connu le moment où vous avez vu débarquer vos copains à l'école, oui, quand vous étiez enfant, avec, oui, une étoile jaune.
Oui.
Vous avez combattu Robert Faurisson quand, oui, le négationnisme était une expression qui pouvait être audible et prononcée dans l'espace,
absolument,
public. Vous avez défendu Robert Badinter.
Oui.
Donc vous avez l'air de relativiser ce qui se passe aujourd'hui.
Non, je ne le relativise pas. Je trouve qu'il ne faut pas, au contraire, l'amplifier. Je crois que l'opinion publique n'est pas antisémite. Alors qu'en Allemagne, l'opinion publique était antisémite, voire la France de Vichy, vous savez, la grande exposition qui avait lieu à Paris, et un certain nombre de choses. Certes, il y a eu en France des justes qui ont caché des juifs, heureusement, mais il y a eu aussi un certain silence sur cette horreur. Moi, j'ai connu, c'est vrai, à l'école, les enfants avec l'étoile jaune. Et c'est mes parents qui m'ont appris à ce moment-là qu'il fallait combattre l'antisémitisme. Et donc, j'ai fini par rejoindre la Ligue des droits de l'homme et en être président, alors que elle a été fondée sur le grand moment d'antisémitisme.
Qui a été l'affaire Dreyfus.
Qui était l'antisémitisme, l'anti-Dreyfus, l'antisémitisme de l'armée, par exemple, à ce moment-là. Bon, donc, mais l'adhésion à ce moment-là à la Ligue des droits de l'homme a été considérable, et le nombre de gens qui ont décidé de combattre l'antisémitisme était important. Certes, il y a eu la bascule effroyable de la Shoah, effroyable, hein, dans l'histoire du monde, ça reste une blessure terrible. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des actes antisémites, il faut les combattre fortement. Je ne crois pas qu'il y ait une bascule antisémite qui soit dans les théories de même de gens qui sollicitent le pouvoir. Enfin, il n'y a pas de parti politique qui se dise antisémite. Certes, nous avons eu il y a 20 ans, les propos de Jean-Marie Le Pen, qui étaient inquiétants, je ne les entends plus prononcer aujourd'hui.
Maître Leclerc, juste une question sur la violence des jeunes. Vous savez qu'on a vu une série de violences extrêmement graves avec des jeunes qui ont été tués, y compris par leurs camarades. On parle de Chemseddine, on parle de Matisse. Gabriel Attal démarre aujourd'hui des concertations avec les syndicats. Est-ce qu'il faut changer la loi en la matière? Et notamment, est-ce qu'il faut ouvrir, comme l'a dit le Premier ministre, le débat sur l'excuse de minorité?
Alors, je n'ai pas ce sujet, moi-là, de statistiques officielles. J'ai trouvé sur Internet, par hasard, un journal de 1900, dans lequel le procureur général de Paris se plaignait de ce que les jeunes soient de plus en plus délinquants, de plus en plus jeunes, et que soient de plus en plus violents. En 1900. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Nous avons une législation concernant les mineurs. Elle n'est pas parfaite, elle est bonne. Elle a progressé. Il y a bien de progrès à faire encore. Mais je dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas de statistiques officielles sur ce qui se passe. Et vous savez, par exemple, que les mouvements d'opinion sont extrêmement forts. Je ne crois pas qu'il y ait, beaucoup plus de viols qu'il y en avait autrefois, mais l'importance qu'on leur donne... Alors, ces violences des jeunes, je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille à n'importe quel moment diminuer, par exemple, l'excuse possible de minorité.
Merci infiniment, maître Henri Leclerc, d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. Excellente journée à suivre la revue de presse.
France Inter, Nicolas Stoufflet.
Nous enregistrons le jeu des 1000 euros aujourd'hui à Auville dans l'Eure à 17h puis à 18h30 et demain après-midi à Bernières-sur-Mer dans le Calvados.
Le jeu des 1000 euros tous les jours à 12h45 sur Inter.
Grand frais.
Oui, bonjour, c'est l'artificier. Dites pour votre feu d'artifice là, je peux pas, j'ai grand frais. Franchement, leurs produits en mettent plein les yeux et surtout plein les papilles.
Grand frais, ce sont des dizaines de promotions chaque jour sur vos produits du quotidien pour un juste rapport qualité-prix. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais,
le meilleur marché.
Il est 8h47.
France Inter. Le 6-9.
La revue de presse, Claude Askolovitch, et vous nous parlez, Claude, de photos.
Deux photos, mon cher Ali, qui me signifient que mon temps est passé, car elles sont en noir et blanc, stigmates du passé dans nos magazines. La première montre une Vespasienne, César et Pipi des vieilles républiques, j'en ai vu. L'autre, une Sanisette de la marque Deco, qui prirent le relais dans les années 80, j'avais dans les 20 ans. Et donc, par ce noir et blanc, Week-end, magazine des échos, renvoie ma jeunesse à la préhistoire, mais en même temps, j'admets. Car Weekend, dont la cover est subtile, Game of Thrones, vous pigez, annonce une révolution, celle des toilettes. Oh, pas simplement dans la rue, où les sanisettes font peau neuve, mais surtout chez nous, car l'intimité depuis le Covid est la nouvelle frontière, et cette intimité, les gars, doit devenir sublime. Ça, c'est le slogan d'une start-up nommée Trône, sans circonflexe, montée par un HEC, deux architectes, un ingénieur, et parrainée par Xavier Niel, qui, pour des grands restos, de belles boîtes, des particuliers qui ont des sous, conçoit des toilettes waouh, douillettes, artistes, sophistiquées, colorées, calipiges asymétriques suspendues, cuvettes en céramique vernie ou laquée, lunettes en frêne, et bientôt sera supprimé l'inesthétique balai à chiottes, car Tron pousse à sa recherche et développement sur l'émaillage des cuvettes et la performance de la chasse d'eau. Et d'autres boîtes planchent sur la science des déjections. Je lis qu'on détruit et détruira les germes par les ultraviolets, des céramiques traitées, des ions d'argent incrustés dans les parois du trône. Et je lis qu'au Japon, la firme Toto, icône du WC lavant et du jet d'eau intime, concocte des toilettes wellness dotées de capteurs capables d'analyser ce que nous déposons au fond de la cuvette et de nous signaler ensuite, via une appli dédiée, nos déséquilibres alimentaires, voire nos malheurs de colon et de rein. J'en vis en couleur mes descendants. Elle contraste cette hygiène glamour avec le sordide poison qui semble le quotidien de familles de gens du voyage que vous lirez sur les sites de Street Press et dans l'Humanité, gens qui vivent sur une aire d'accueil à LM Ronchin dans le Nord, à l'ombre d'une usine de béton et d'une concasserie de gravats. Dans Sud-Ouest, du côté de l'espoir, regardez une jeune étrangère qui, avec du riz, veut nettoyer nos eaux. Alba Rodriguez Otero, madrilène, qui a travaillé avec l'Université de Copenhague, qui, sur le traitement des eaux, est la meilleure. Dans un labo de la fac de Pau, extrait de l'enveloppe du riz du silice, 300 grammes pour 1 kilo. Et le silice, mieux que le charbon, filtre les micropolluants qui sont devenus son Graal. Lisez, cette étudiante est waouh.
On parle aussi d'une écrivaine.
Qui n'aimait pas sa ville de naissance en Haute-Loire et donc facilement est partie, Emilienne Malfatto, que le monde rencontre, aventurière, trentenaire, passée par la Colombie, l'Irak, le Kurdistan, prix Albert Londres, prix Goncourt du premier roman. Son dernier livre évoque les victimes de la dictature argentine. Elle pense désormais à un podcast sur des latinos émigrés clandestinement aux États-Unis. Elle photographie aussi car elle raconte des histoires par la lumière et en comparaison d'elle, on se sent gris, tout petit dans le monde qui lui appartient. Cette femme qui donne de la lumière, de la voix aux exclus. Tout près d'elle, lisez dans La Croix, l'hebdo, Nastassia Martin, anthropologue littéraire dont le Kamtchatka au bout de la Russie est la terre d'éveil et où, par la rencontre avec un ours, elle a su qu'elle croyait aux animaux et qui nous livre la vision du monde d'un peuple de là-bas, les Évennes, où il lisait. Cette Française est dotée d'un prénom russe car son père, qui est mort quand elle avait 15 ans, croyait au communisme à l'Est. Elle dit qu'au Kamtchatka, elle est une Mietka, celle qui vit entre les mondes, mais elle est bien aussi à nous dans la beauté de sa langue. Et c'est une journaliste trop tôt disparue, Fanny Chiroux, qui avait dit à ses amis de la Croix l'Hebdo d'aller voir cette femme incroyable. Ainsi nous nous prolongeons. Sur le site du Monde encore, lisez une réflexion splendide de l'écrivain Jonathan Littell sur ce que pourrait être la littérature, une bibliothèque authentiquement ukrainienne. Il plaide pour que Bulgakov, qui était de Kiev mais écrivait en russe et était méchant envers l'Ukraine et sa langue, soit inclus dans ce patrimoine, car il est à vous, dit-il à ses amis ukrainiens, il est à vous et peu importe qu'il ait été un salaud d'impérialiste. En France aussi, nous avons des salauds dans notre littérature, des antisémites comme Céline, personne ne dira que ce ne sont pas des écrivains français.
On parle enfin des grands magasins.
Que revisite pour nous, au musée des arts décoratifs, le Figaro du jour et Télérama, précieux guide d'une expo consacrée à ces temples dans la consommation qui poussèrent dans nos villes dans l'euphorie du 19e siècle, inventée par d'entreprenants personnages dont s'amuse le Figaro, homme ventru, dame patronne, patron paternaliste de les employés, organisés en hiérarchie, étaient nourris, logés, blanchis, et le concierge veillait à ce que les demoiselles du bon marché soient rentrées chez elles à 23h en semaine, à minuit et demi, le dimanche et jour de fête. Le Figaro encore nous raconte comment ces années optimistes de l'âge industriel furent magnifiées au quotidien par la peinture, la photographie, des films, des enseignes, et cela donne ce printemps au musée des Beaux-Arts de Caen une exposition, le spectacle de la marchandise, art et commerce 1860-1914, où vous croiserez un marché de Marseille vu par Raoul Dufy, celui de la rue Mouffetard vu par le pointilliste Maximilien Luce, et une amatrice de sol vue par Steinlein. C'est sublime, merci messieurs. Dans les DNA et l'Alsace, on nous invite au musée Unterlinden de Colmar à voir un Dürer, le triptyque d'une crucifixion oubliée, retrouvée en Picardie. Ce tableau et d'autres chinés littéralement analysés, sauvés par des chercheurs pour une expo sur la peinture rhénane des 15e et 16e siècles, intitulée « Couleur, gloire et beauté ». Ça vaut Game of Thrones. Enfin, dans Marianne, qui se plonge dans l'histoire des scandales et des blasphèmes, je lis la réponse que fit le poète Baudelaire au peintre Manet, dont la bien-pensance d'alors avait mis à mal le tableau d'Olympia, un nu trop érotique. romantique, il cherchait chez son copain poète un peu de réconfort, mais Baudelaire ne fut guère tendre. « Il faut donc que je vous parle encore de vous, que je m'applique à démontrer ce que vous valez. C'est vraiment bête. Avez-vous plus de génie que Chateaubriand et Wagner? On s'est bien moqué d'eux. Pourtant, ils n'en sont pas morts. » À relire. C'était gentil.
Oh oui.
Merci Claude Askolovitch. 8h53 sur Inter, Planète Verte, la chronique environnement. Bonjour Célia Quiré.
Bonjour à tous.
Chaque vendredi, Célia, vous revenez sur ce qui vous a marqué. Et pour cette journée mondiale de la liberté de la presse, vous nous parlez des agressions subies par les journalistes environnement. Le terrain de l'écologie est-il de plus en plus miné?
Oui, en Inde, par exemple, informer sur l'environnement tue en 10 ans 13 journalistes spécialisés sur l'écologie sont morts dans ce pays. Selon Reporters sans frontières, plusieurs s'étaient intéressés à la mafia du sable. Or, il ne fait pas bon enquêter sur l'exploitation illégale des ressources. Le pouvoir ne supporte pas que l'on fouille sur ces réseaux de crimes organisés. L'Inde de l'ultranationaliste Narendra Modi est l'un des pires pays du classement mondial de la liberté de la presse qui sort ce vendredi. En tout, plus de 200 journalistes ont fait l'objet de violences ces 10 dernières années sur des sujets environnement, notamment en Asie et en Amérique du Sud. Il y a des sujets minés, orpaillage, mines de métaux, justement. La forêt est une jungle peu protectrice pour la presse, surtout si l'on veut parler bois illégal ou braconnage.
Et le sujet est tellement sensible que les Nations Unies s'en emparent.
Oui, le secrétaire général Antonio Guterres a alerté lui-même cette semaine sur ce danger. La liberté des médias est attaquée et il met en avant une contradiction. D'un côté, une urgence environnementale qui menace la génération actuelle et les futures, et de l'autre, des journalistes menacés lorsqu'ils tentent de rendre compte de ce vandalisme environnemental. Or, selon l'UNESCO, en 15 ans, 750 journalistes ou médias traitant de l'environnement ont été ciblés, menacés. C'est 2/3 des reporters concernés, 40 sont morts. Attaques en hausse de 40% depuis 4 ans, selon un rapport tout chaud qui sort ce matin. Et l'intelligence artificielle n'y est pas pour rien, c'est Amnesty qui le dit. Des logiciels espionnent désormais des défenseurs de l'environnement, des journalistes, en particulier en Arménie, en Inde, en République dominicaine, en Serbie. Il n'y a pas de réglementation sur le sujet.
Et en France aussi, on peut dire que la liberté de la presse est menacée.
Oui, récemment, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement l'a dénoncé. Il y a des atteintes aux droits, notamment sur le chantier de l'autoroute A69. Entre Toulouse et Castres, les journalistes sont exclus par endroits. En 2020, des journalistes qui couvraient une action militante à Orly et Roissy ont été arrêtés, certains placés en garde à vue. Et on n'oublie pas les tensions latentes en Bretagne sur l'agro-industrie, les intimidations subies par Inès Leroux sur les algues vertes. En 2021, une journaliste allemande a reçu une visite surprise de gendarmes un soir à son hôtel. Elle a dû effacer ses enregistrements.
Et dans votre viseur, Célia, pour les jours à venir, il y a une actu marquante la semaine prochaine?
Oui, on va parler pesticides. Le gouvernement doit dévoiler lundi son énième plan éco-phyto, mais comme il a supprimé le thermomètre qui permet de mesurer la consommation de pesticides, comment pourra-t-il les réduire? Question empoisonnée, alors qu'une nouvelle étude d'une université canadienne vient de prouver leur dangerosité, c'est l'effet cocktail avec cette conclusion, sans détour, même à faible dose, la plupart des pesticides ont des effets réels lorsqu'ils sont combinés, pollution de l'eau, de notre alimentation. Alors cette fois, les scientifiques, d'ailleurs menacés aussi comme les journalistes, seront-ils entendus? On l'espère.
La chronique environnement, merci Célia Quiré.
France Inter.
Bonjour Tania Dutel.
Bonjour. Eh ben merci de m'avoir invité pour cette interview.
Non, c'est pas une interview, c'est un billet d'humeur.
Si, en fait, je vous ai rédigé les questions.
C'est vrai.
Après, c'est censé être drôle. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais du stand-up. Bon, vous ne le savez pas. Je fais du stand-up et hier encore, j'ai joué deux fois dans le même comédie club, même texte, premier public super. Et deuxième, bon, clairement, j'ai tapé à côté, quoi.
Donc Tania, vous êtes aussi dans l'émission Zoom Zoom Zen depuis septembre 2022?
Oui, mais c'est pas une question, Ali.
Non, mais concernant cette émission, quel est le commentaire que vous lisez le plus à votre sujet?
Eh bien, rendez-nous Charline. voilà, et bon, vous me direz, c'est pas lié à moi, je sais, j'adore Charline, mais rendez-nous. Je ne la possède pas, je ne la garde pas en captivité. Après, il me faut aussi des remarques sur mon physique. J'ai lu la semaine dernière que j'avais des cernes, notamment. Ça oui, c'est lié à moi, mais pas grand intérêt, puisque je possède des miroirs, donc je sais.
Et quelle est votre dernière bonne action?
Alors, j'étais en montage de mon spectacle qui va sortir sur Canal en septembre, je me permets ma petite pub. Le matin, j'ai vu un pigeon qui regardait un mur et je me suis dit, oh là là, ça a pas l'air d'aller. Parce que moi, quand ça va pas, je regarde le plafond. Le midi, il était toujours là et je dis, ah, Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement. Et le soir, devinez qui était toujours là ? Le pigeon, ah bah évidemment. Oui. Je me souviens, je dis, si je ne fais rien, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. Je ne pourrais plus me regarder dans un miroir. Donc, j'ai checké les vétérinaires. J'ai vu qu'il y en avait un à 90 mètres. J'ai mis le pigeon dans une boîte. Je l'ai apporté chez le vétérinaire. Et après, l'assistante, je lui explique tout. Et elle me demande si je souhaite récupérer le pigeon. Et je dis, ben, en fait, c'est un pigeon de la ville de Paris. Moi, je n'ai pas de volière. Donc, s'il vous plaît, sauvez-le. Et ensuite, ouvrez les fenêtres.
Mais quelle a été votre plus grosse peur ?
Laissez-moi faire semblant de réfléchir. En tout cas, j'adore vos questions parce qu'en principe, on me demande toujours ce que ça fait d'être une femme dans l'humour. Donc là, ça change. Merci beaucoup. Ma plus grosse peur, oui, je venais de tourner dans un château hanté et en rentrant chez moi la première nuit, donc je dors et je vois une lumière qui clignote, qui vient de ma penderie. Et donc vraiment, j'étais absolument pas bien. Je pensais que j'avais ramené une entité chez moi. Et en fait, c'était mon compteur Linky qui clignote.
Votre choix le plus judicieux quand vous étiez adolescente ?
Le traitement roi cutane.
Ah oui.
Ouais. Parce qu'en fait, avant ça, sur chacune des photos, j'avais la peau si grasse que je ressemblais à un phare de voiture. En gros, je brillais tellement qu'on pensait que le flash venait de moi.
Et pour conclure, Tania, une honte ?
Oui, j'ai accusé un copain d'avoir déféqué dans ma douche. En fait, il m'a ensuite bloqué partout et je me suis aperçue que c'était le sanibroyeur qui remontait dans ma douche. Donc, je le dis publiquement, pardon, je croyais vraiment que c'était toi, je te jure.
Merci Tania Dutel et à bientôt dans Zoom Zoom Zen, de retour à 16h sur Inter.